Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. C'est ensuite André Bercoff qui sera avec vous. Vous savez que Sud Radio vous accompagne. On est en direct de 5h du matin jusqu'à tard le soir, plus de 22h30. Donc merci aux réalisateurs qui réalisent, qui sont là dans les locaux de Sud Radio et qui nous permettent à nous de rester confinés, mais avec beaucoup de prudence pour eux. On est aujourd'hui, évidemment, le commentaire, vous l'imaginez, va concerner l'intervention du président de la République. Je suis avec Geneviève Götzinger. Bonjour, présidente de l'agence Image. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour. Alexis Poulain, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour tout le monde.
Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve également sur Sud Radio dans la matinale de Patrick Roger et Cécile Doménibus pour un édito. Frédéric Dabi, bonjour, directeur général adjoint de l'IFOP.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Et Gaspard Ganzer, bonjour, un petit nouveau dans notre team. On est ravis de vous accueillir, consultant en communication. Et vous venez de créer votre société Gaspard Ganzer. Voilà, donc le président de la République qui a rassemblé hier, on le disait, pas loin certainement de 36 millions de téléspectateurs. C'est un record absolu. Je pense que les Français en attendaient beaucoup. On va y revenir dans un instant. Peut-être un petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention dans cette actualité, peut-être hors discours d'Emmanuel Macron. Frédéric Dabi, commençons avec vous.
Oui, bonjour à tous. C'est un coup de cœur un peu triste. C'est la disparition de Maurice Barrier, un acteur de cinéma et de théâtre français, mort du Covid à 87 ans. Alors son visage peut-être, son nom peut-être ne dit pas grand-chose à nos auditeurs, mais son visage, sa gueule, si j'ose dire, dira énormément de choses. Il a joué dans Coup de tête, Deux hommes dans la ville, des films avec Belmondo, Delon, Les Fugitifs avec Depardieu et Pierre Richard. Et surtout, il s'inscrit dans cette tradition, cette belle tradition française du second rôle des acteurs qui n'ont jamais percé comme des premiers rôles, mais qui ont accompagné des générations de cinéphiles, de Maurice Biro à Paul Le Person, de Robert d'Alban à Jean Bouys, qui avait d'ailleurs joué avec Maurice Barrier dans Coup de tête. Voilà, c'est une certaine tristesse de voir le Covid emporter cet acteur français.
Oui, qui était effectivement une des figures importantes du cinéma français, et c'est ce second rôle que vous évoquez qui ont fait aussi toute la richesse de notre cinéma. On va passer au coup de gueule peut-être Gaspard Ganzer. Je vais faire dans l'ordre. Gaspard Ganzer, qu'est-ce qui a retenu votre attention à vous?
Ce matin, on a eu la confirmation que Bernie Sanders, qui était donc candidat à l'investiture pour le Parti démocrate à la présidentielle américaine qui a lieu cette année, se rejoignait après avoir abandonné Joe Biden, qui était son principal concurrent et qui est aujourd'hui maintenant le candidat qui va être investi par les démocrates pour lutter contre Trump. Ouais. J'ai choisi ce sujet pour deux raisons. La première, c'est parce que Sanders, qui a bientôt 80 ans, a fait une campagne quand même assez exceptionnelle, un peu atypique, parce que très, très engagé, on va dire à gauche, même si ça a moins de signification aux États-Unis, très moderne, avec à ses côtés peut-être une future candidate aux élections présidentielles, Alexandria Ocasio-Cortez. Et puis surtout parce que se pose la question de est-ce qu'il y a une alternative à Trump aux États-Unis. Trump aujourd'hui est dans la tourmente avec cette gestion de crise du coronavirus qui fait beaucoup de morts aux États-Unis et surtout des grands ravages économiques. Donc peut-être qu'une partie des Américains attend l'alternance.
Bon, très bien. Oui, ça méritait d'être souligné. Alexis Bachelet. Bachelet, c'est Alexis Poulain, pardon, je me mélange.
C'est l'autre.
Décidément, c'est l'autre. Alexis Poulain.
Alors c'est pas un coup de cœur, c'est un coup d'inquiétude sur ces feux de forêt à quelques kilomètres de Tchernobyl qui sont toujours pas maîtrisés et le risque de d'avoir de nouveau des particules qui vont s'élever dans le ciel européen. Et puis si on parle de nucléaire, il y a la Corée du Nord aussi, pays soi-disant atomique, qui fait des tests balistiques en ce moment, chacun ses priorités, et qui a envoyé deux missiles apparemment hier en direction du Japon pour faire des tests selon les renseignements de Corée du Sud. Voilà, donc le monde d'après se prépare et c'est ça risque d'être le monde d'avant dopé aux amphétamines, quoi.
Oui, mais c'est vrai que Tchernobyl, on l'a entendu dans le flash tout à l'heure, c'est dans la partie qui est totalement déserte de Tchernobyl où personne ne peut aller, que se sont déclarés ces feux. Donc c'est d'autant plus inquiétant puisque c'est une partie qui reste encore hautement contaminée visiblement. Geneviève Götzinger.
Alors, bah, moi, je vais revenir au Covid-19 et on va du coup démarrer sur la communication du président, ouais. Parce que moi, c'est un coup de gueule contre Christophe Castaner. Ce qu'on a reproché à la communication générale sur le Covid-19 ces dernières semaines, c'était une espèce de cacophonie, des injonctions paradoxales. Là, on a hier un président de la République, on va y revenir, extrêmement clair, je trouve, avec un discours radicalement différent de ses précédents. Et ce matin, le ministre de l'Intérieur revient à cette logique de communication pas claire. Il introduit finalement le doute en expliquant que le déconfinement le 11 mai, c'est pas une certitude, c'est un objectif. Alors que le président de la République, de manière extrêmement claire hier, dit le 11 mai, ce ne sera possible que si, bien sûr, mais le 11 mai sera le début d'une nouvelle étape. Donc une nouvelle fois, par cette formule extrêmement maladroite du ministre de l'Intérieur, on revient à une communication moins claire et plus cacophonique.
Oui, enfin ce matin, il y avait Olivier Véran qui était aussi sur une radio concurrente, qui avait beaucoup de mal à répondre aux questions des auditeurs de façon précise, à savoir par exemple dans les EHPAD, comment ça va se passer. Le président a annoncé qu'on pourrait voir nos aînés, voir nos parents, et là la réponse, elle n'est pas là non plus. Et on a Jean-Michel Blanquer qui annonce aussi que ça va être très compliqué le retour à l'école. Donc il y a des choses, on va y revenir sur des choses qui ont été annoncées hier et qui ce matin... on a un peu l'impression que les ministres vont faire le boulot, un peu le sale boulot derrière.
Bah de toute façon, le gouvernement a 15 jours pour mettre un plan derrière le mot de nouvel espoir. Hein. Ça c'est clair. Ouais,
alors petit tour de table, Gaspard Ganzer. Donc je rappelle que vous avez été conseiller en communication. Enfin, vous avez été directeur de la communication. Je trouve pas le mot de François Hollande. Donc vous connaissez bien cet exercice là. Comment est-ce que vous avez trouvé hier le président de la République?
Alors, tout d'abord, petit exercice de modestie personnelle, parce que comme moi-même, j'ai travaillé à l'Élysée, je sais que ce sont des exercices très très difficiles. Il n'en reste pas moins que j'ai trouvé le président convaincant. J'avais été un peu sceptique sur ses interventions précédentes, très belliqueuses, bellicistes, très guerrières, où il avait répété, vous savez, 6 fois le mot guerre. J'avais été un peu plus interrogatif aussi sur les cartes postales qu'il avait envoyées avec des déplacements un peu partout sur le territoire. Là, je l'ai trouvé bon pour 3 raisons. La première, c'est que il a reconnu des erreurs et des failles, et ça me semble essentiel. Tout le monde a bien compris qu'on était dans une situation exceptionnelle et qu'on pouvait se tromper, il l'a dit. Deux, parce que j'ai trouvé que dans le ton, il était quand même plus simple, plus proche. Et trois, parce que il a quand même fait preuve de courage. Parce qu'annoncer une date, même si elle est indicative, comme le 11 mai, et dire que les écoles vont peut-être rouvrir, c'était courageux. Hein. Donc maintenant, il faut que le gouvernement mette en œuvre cette volonté présidentielle, mais j'ai trouvé que c'était courageux.
Oui. Geneviève Götzinger.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Je trouve qu'on est passé d'une communication qui était très exaltée, qui était très martiale, effectivement, et qui par là même était passablement anxiogène pour les Français, un discours qui est beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus concret aussi, beaucoup plus porteur d'espoir. En fait, j'avais le sentiment hier en écoutant Emmanuel Macron qu'il avait pris en compte tous les reproches qui avaient été faits à sa communication jusque-là et qu'il faisait l'exact inverse. Donc il y avait plus, c'était un discours davantage de véracité, de transparence, de clarté, avec une date, avec effectivement, comme le dit Gaspard, la reconnaissance des failles, et une forme d'humilité. Et puis on n'infantilisait plus les Français, il n'y avait plus cette culpabilisation qu'il y a eu à un moment. Au contraire, il y avait de la bienveillance dans la manière de leur parler. Et puis autre chose, il n'était pas martial hier, mais il décidait. Sauf que pour la première fois, il ne s'est pas caché derrière le comité d'experts, derrière les scientifiques. C'était le primat du politique. Cette date du 11 mai, c'est moi qui la décide et je m'abrite plus derrière un discours de sachant pour décider. Voilà, le primat du politique, ça m'a semblé. Et de la décision qui est de son ressort et il l'exprime d'une manière très claire.
Alexis Poulain, vous ne serez forcément pas d'accord.
Oui, il y a le fond et la forme. Non, alors il a fait un effort effectivement d'humilité, c'est difficile pour lui, donc il faut saluer l'effort de Jupiter, hein, de pas dire pardon, hein, mais de dire qu'il y avait des erreurs. Mais c'est un discours de dédouanement pour moi, parce qu'il se met à notre hauteur en disant « j'ai constaté comme vous des failles ». Jamais il ne met en cause sa responsabilité ou la responsabilité des pouvoirs publics dans cette pénurie, parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est confiné si longtemps? Parce qu'on n'a pas de masque, parce qu'on n'a pas de test, parce qu'on a passé 2 mois à mentir. Et il est parvenu sur les mensonges, mais rappelez-vous, Jérôme Salomon
devant les sénateurs disait qu'il n'y avait pas de pénurie de masques le 26 février. On a eu les discours d'Agnès Buzyn, d'Olivier Véran, tout était en ligne, tout était préparé. C'est faux, c'était des mensonges. Je ne reviens pas sur la porte-parole Sibeth Ndiaye qui racontait n'importe quoi sur les masques. Donc on est dans un discours de à la fois la gestion de pénurie pour faire croire que on a un cap, qu'on sait ce qu'on fait. Non, visiblement le 11 mai, ça rétropédale aujourd'hui. Et évidemment, les parents, les élèves sont inquiets de se dire mais qu'est-ce que je vais faire dans une école alors qu'on n'est pas préparé. Et les experts de l'INSERM, de l'OMS vous diront on ne peut pas déconfiner sans masque et sans test massif. Donc on continue de gérer la pénurie et on continue de tout faire pour ne pas être responsable. Donc il s'est un peu calmé sur la guerre parce que ça ne prend pas. Les Français ne sont pas idiots, ils ont bien vu qu'il n'y a pas d'ennemi invisible, il y a un virus, il y a une crise sanitaire qui est très mal gérée, et la communication, c'est pas que ça, quoi. Et hier, c'était encore une fois un discours pour dire « Ouais, c'était pas moi, j'ai fait ce que je pouvais, mais c'était pas moi, c'est faux, regardez à nos côtés l'Allemagne qui va reprendre une activité bien avant nous, qui gère bien autrement, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays dans le monde qui gèrent beaucoup mieux que la France, c'est pas tous les pays. » Donc encore une fois, un discours pour mettre en avant son irresponsabilité dans ce fiasco monumental.
Excusez-moi, je suis pas totalement d'accord. Oui. Juste un mot Gaspard de Gonzard. C'est parce qu'il a quand même dit au tout début qu'il n'était pas prêt, que le gouvernement n'était pas prêt. Ouais. Donc cette phrase, il a reconnu qu'il y a eu un problème de préparation et de mise en œuvre dans la gestion de la crise. C'est juste ça que je voulais ajouter.
Oui, il a dit nous n'étions certainement il a eu cette phrase là. On va marquer une pause et Frédéric Dabi, on vous entendra, on entendra votre avis tout de suite après. 0826 300 300, vous attend également si vous voulez nous répondre. Beaucoup sur le Facebook de Sud Radio disent il ne m'a pas convaincu, des mots, etc. Donc on veut vous entendre également, vous auditeurs de Sud Radio, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 0826 300 300, pour vos réactions. Qu'avez-vous pensé de l'intervention du président de la République hier soir? J'ai une information sur Twitter. Le Haut de Paris nous dit qu'il y a eu une baisse de la consommation d'eau en France pendant les 30 minutes et que ça ne s'était jamais produit. Voilà, bon, c'est un petit détail, mais en tout cas, il y avait pratiquement 9 Français sur 10 qui regardaient la télévision, qui étaient devant le président de la République. Alors Frédéric Dabi, votre analyse de cette intervention?
Déjà, ma chère Valérie, je pense que ce n'est pas un détail. Qu'il y ait plus de 30 millions de personnes qui ont vu l'intervention du chef de l'État. 37 millions, on a tendance à dire, et je l'ai dit à plusieurs reprises sur vos antennes, qu'une intervention présidentielle ne change pas le rapport que les Français ont en termes de popularité ou d'impopularité. Il faut peut-être réviser ces fameuses classiques. Une intervention ratée pouvait se payer cash, et je ne sais pas si elle est ratée ou si elle est réussie, c'est pas à moi de le dire, mais elle était clairement en rupture avec ces 3 interventions précédentes qui étaient extrêmement monocorde, avec le ton martial, avec l'absence de reconnaissance des failles. Il a quand même, ce qui me frappe en termes de rupture, c'est qu'il a quand même reconnu, bien sûr, en mettant en avant que la France a fait face, que les Français ont su se réinventer toutes ces failles. Étions-nous préparés? On pense à l'armée française en mai 40. La réponse est non, pas assez. Il a parlé des différents dysfonctionnements. Le ton également était beaucoup plus modeste, ce qui a permis de peut-être abolir cette dissociation qu'ont fait les Français dans nos enquêtes d'opinion entre un président finalement assez déconnecté, parlant de guerre et envoyant des cartes postales, et un Premier ministre plutôt au front dont on appréciait les prises des prises de position. Et puis voilà, est-ce que c'est pas aussi un déconfinement d'Emmanuel Macron lui-même quand il parle de planification, quand il parle de sortir des sentiers battus, et moi le premier? Je pense que ça a été une intervention qui va être relativement fondatrice, et le point majeur, c'est quand même qu'il a donné pour la première fois une projection, une perspective aux Français. On verra dans notre balise IFOP fiduciaire pour Sud Radio si le niveau d'inquiétude si fort depuis quelques semaines va un petit peu, décélérer compte tenu de cette perspective du 11 mai.
Je peux rebondir sur la planification,
Valérie? Allez-y.
Ouais, le sentiment est quand même qu'Emmanuel Macron fait de la politique, et c'est normal, il fait toujours de la politique, et en se projetant dans l'après, c'est aussi son après à lui. Après, la question qu'on peut se poser quand même réellement, quand il parle de mots comme de planification, ce type de choses, ça va être sa légitimité à porter une politique radicalement différente de celle sur laquelle il a été élu, parce que qu'on le veuille ou non, les fondements du macronisme sont remis en question par cette crise, à la fois sur le plan comportemental du président, et puis à la fois sur les choix structurants qui ont été les siens depuis le début du quinquennat, et les choix structurants sur lesquels il a été porté au pouvoir également.
Oui.
Le modèle de société, la mondialisation, les délocalisations, la place de l'Europe, de la nation, le rôle de l'État versus les collectivités locales, enfin tout ça, hein, l'importance des services publics. Est-ce que demain, quand on va reposer toutes ces questions, qu'elles vont être sur la table, qu'il va falloir relocaliser certaines productions vitales, qu'il va falloir recréer du lien, est-ce qu'il est le mieux placé? Alors, forcément, il se situe aujourd'hui dans une démarche très de consensus national, après avoir tenté de confisquer le débat politique quand même. Hein. Là, maintenant, il ne le confisque plus, mais il essaie de l'étendre à l'ensemble des forces, à la fois politiques, économiques, sociales, dans une démarche très Conseil national de la résistance. Mais est-ce qu'il est le mieux placé pour porter ce message-là et cette politique-là, qui va être forcément différente?
Gaspard Ganzer.
Oui, alors c'est très difficile de savoir s'il sera le mieux placé, parce que de toute façon, Frédéric Dabil dirait mieux que moi, mais le président de la République joue toujours le rôle de bouc émissaire, si ce n'est de paratonnerre en période de crise. Donc Nicolas Sarkozy après 2008, François Hollande après les attentats de 2015-2016 avait malheureusement pu le constater. Mais pour rejoindre ce que disait Geneviève à l'instant, oui, il y a une inflexion politique qui est au moins dans les mots. Aujourd'hui, on verra si elle est dans les actes. Visiblement, la dernière partie du quinquennat ne sera plus celle ni de la communication jupitérienne, ni celle des réformes de structure ou des réformes libérales, si ce n'est ultra-libérales. On est sur autre chose. Et moi, j'ai été très, très frappé de ce qu'il a dit sur le point de la solidarité, de la fraternité et sur la dette des pays africains. Alors, ça, je m'y attendais pas du tout. Mais alors, c'est un signal très fort envoyé évidemment à l'Afrique et envoyé à tous ceux qui sont des tenants de l'universalisme et de la solidarité mondiale. C'était inattendu, mais moi ça m'a touché.
Et comment vous le comprenez comment vous comprenez qu'il ait fait cette annonce justement dans une période où on dit aux Français, voilà, on va avoir une dette exceptionnelle, il va falloir travailler plus pour relancer l'économie et on efface la dette des pays africains?
Je pense qu'il faut pas exclure que les hommes politiques, y compris le président de la République, aient des convictions. Je crois que le président de la République, dans son ADN, au bout du compte, il y a quand même la solidarité internationale, et il sait bien que si chaque pays se replie sur lui-même et qu'on est dans le règle du chacun chez soi et du chacun pour soi, ça se retournera contre nous. Parce qu'au-delà de la générosité vis-à-vis des pays africains, il faut bien savoir que si il y a un collapse, un effondrement en Afrique, l'Europe en paiera les conséquences d'un point de vue économique et d'un point de vue migratoire.
Alors, est-ce que c'était le moment de dire ça? Alors peut-être de faire tourner Geneviève et puis après Alexis.
Oui, par rapport à l'Afrique, c'est... Il y a effectivement, je pense, des convictions du président de la République. Il répond quand même à une demande qui est celle des principaux présidents d'Afrique subsaharienne francophone, hein, et notamment à la très belle tribune du président sénégalais Macky Sall dans Jeune Afrique cette semaine. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a l'impression depuis le début de la pandémie que la France était en train de perdre des positions en Afrique, notamment au profit de la Chine. Bon, moi, je travaille pas mal sur l'Afrique, hein, j'ai des clients africains, notamment en Côte d'Ivoire, et ils étaient très sensibles au fait qu'aujourd'hui, l'aide, elle vient de Chine, elle vient du patron d'Alibaba, elle vient, et par rapport à ça, la France montrait une forme de vulnérabilité et une forme de distance aussi par rapport à l'Afrique. Et donc, il était très, très, très important, très rapidement, de répondre à ces sollicitations et de montrer, pour l'avenir, qu'on était auprès de nos amis africains qui comptent sur nous. Moi, un certain nombre de gens m'ont dit, mais attendez, nous, on va avoir besoin de vous. Là. Donc,
Mais Frédéric Dabi, est-ce que c'était le moment hier d'évoquer ça dans ce discours, dans cette allocution?
D'évoquer quoi? Pardon, j'ai perdu votre parole. Excusez-moi.
Je disais, est-ce que c'était le moment d'évoquer la dette des pays africains hier dans cette allocution où les Français attendaient des choses très concrètes sur leur vie quotidienne?
C'est clair que ce n'est pas un sujet que les Français attendaient particulièrement, mais je pense que de ce point de vue-là, le président était relativement concret sur toute une série de choses. Donc, heureusement, enfin, je dirais que cette annonce sur la dette en Afrique, dans un contexte où la dette françaises et les dettes européennes vont bien sûr exploser, a été à mon avis très très peu retenu. Ce que les Français ont surtout retenu, c'est cette date du 11 mai. Et comme le disait Geneviève tout à l'heure, dans son coup de gueule, je pense que c'est particulièrement dévastateur qu'au lendemain de la parole présidentielle, certains exégètes commencent à dire oui, c'est après le 11 mai, à partir du 11 mai. Enfin, ouais, c'est quelque chose qui peut troubler l'opinion publique qui attend de plus en plus de la clarté. Je rappellerai que dans notre baromètre IFOP fiduciaire pour Sud Radio de suivi de la gestion du gouvernement de cette crise, l'item il communique de manière claire a perdu 30 points depuis le mois de mars. On n'est plus qu'à 32%.
Ah oui, effectivement. Et donc, vous pensez qu'il a communiqué clairement hier? Parce que, encore une fois, son message de dire les 11 mai, il y a beaucoup de questions ce matin. Je regardais un peu sur les réseaux sociaux qui disent, mais pourquoi il annonce le 11 mai? Alors, c'est un objectif, c'est ce que Christophe Castaner a dit ce matin. Mais est-ce qu'il a eu raison d'annoncer une date aussi précise?
C'est ce qu'attendaient les Français maintenant. Du 1er mai, la transhumance du 1er mai avec la fin des vacances scolaires 4 mai et ensuite le 8, 9, 10 mai, encore un grand week-end prolongé où vous auriez pu avoir des envies de transhumance de personnes qui ont été quand même privées de liberté, enfin nous tous, pendant autant de semaines.
Oui.
Donc je pense que c'est pour éviter ces transhumances.
Oui, il y a ça, il y a aussi.
Alexis Poulain.
Tout simplement, je redis, on est en train d'enfermer les Français dans une réalité qui n'est pas celle de d'autres partenaires européens qui ont géré autrement. Oui. On nous dit le 11 mai parce que bon, c'est une carotte, hein, mais c'est extrêmement loin, mais on ne peut plus continuer de dire 15 jours, 15 jours, 15 jours. Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de déconfiner. Et parce qu'on ne peut pas le faire dans des conditions sanitaires pour tous. Et dire même déjà un retour à l'école, ça pose extrêmement trop de questions.
Ça pose beaucoup de questions.
Sur la condition, bien sûr, en fonction de l'âge des enfants, en fonction de la distanciation sociale qui ne peut pas être respectée dans ces écoles. Donc on est sur... il faut que les Français rongent leurs freins. Et hier, il a bien évité quand même le sujet majeur, c'est la crise économique qui va nous arriver en pleine figure.
Ouais,
et qui va être là d'une ampleur inédite. Et je ne vois pas comment... on peut faire abstraction de ça. Alors, c'est des beaux discours, hein. L'espoir revient, etc. Effectivement, il y avait quand même un peu de positif, mais rien comparé à la planification, à ce qu'attendent les entrepreneurs aujourd'hui, les petits patrons de PME, les restaurateurs qui vont pas rouvrir avant juillet, août peut-être plus tard. Pour eux, c'est la faillite assurée, sachant que les aides sont extrêmement difficiles à avoir et que sans une relance de l'économie d'une façon ou d'une autre, c'est la banqueroute de la France. On est en train de se rendre compte, nous les Français et à nos dépens, qu'on est devenu un pays du Sud. On n'est pas, pas du tout créditeur, on est débiteur. On pensait avoir le meilleur système de santé. Eh bien, il faut bricoler et multiplier dans l'urgence les liens en réanimation. Et puis, on voit bien qu'on n'a pas les moyens, en tant que puissance mondiale, de produire ces petits objets faits de plastique, d'élastique et de papier que sont les masques. Donc, il y a un vrai problème structurel sur la place de la France en Europe comme grande nation quand on voit, en comparaison, là où en sont les Allemands aujourd'hui.
Oui, alors on va marquer une pause, on se retrouve dans un instant. Vos appels 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, c'est le 10h midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Nous débattons avec Gaspard Ganzer, consultant en communication, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et Geneviève Götzinger, communicante et présidente de l'agence Image. Réouverture des écoles, qu'en pensez-vous? Cette date du 11 mai, comment l'appréhendez-vous? On attend vos réactions. On a Pierre qui nous appelle en ligne de Périgueux. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour tout le monde. Merci
bonjour.
Pour votre émission.
Merci. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, hier, du président?
Bah, écoutez, au niveau de la forme, il y a belle durée que je ne crois plus aux paroles. Moi, je juge sur des actes. Donc, on nous raconte des histoires. Moi, je juge sur les actes. Mais c'est surtout au niveau, disons, de son attitude. Jupiter est descendu de son piédestal. Il avait un discours beaucoup plus posé, beaucoup plus timoré, beaucoup plus penaud, comme un enfant qui sait qu'il va se faire battre. Et j'ai l'impression qu'il se doute que le réveil social va être douloureux, très douloureux. Et là, il commence, disons, à revenir un petit peu en arrière et à s'excuser, à être moins prétentieux qu'il ne l'était au début. Voilà mon point de vue.
Donc vous avez été plutôt convaincu par rapport à ce que vous dites de la parole présidentielle que vous ne croyez plus.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Pour moi, c'est de la comédie. Hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il va, il va se faire taper sur les doigts et il commence à trouver des justificatifs. C'est pas moi, c'est les autres. Non, non, là, c'est quelqu'un. Je suis pas du tout convaincu. Au contraire, c'est de la, c'est du cinéma, c'est de la comédie hein, pour moi. Absolument.
C'est d'accord. Merci d'être intervenu, Pierre. Je vois un commentaire également sur Internet de quelqu'un qui dit. Le problème, c'est cette cacophonie d'explications mal travaillées au lendemain d'un discours clair. Deux jours de calme sur le terrain de la com auraient été vertueux à moins égard.
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Vous aviez Richard Alexis Ferrand Poulain. Qui se plaignait de justement tous ces commentateurs avant le discours, mais toutes les fuites viennent de l'Élysée. C'est une vieille communication, des vieilles ficelles, et ça, Gaspard pourra en parler, mais c'est pas la peine de faire ça. Il faut de la clarté, il faut arrêter de mentir. On est dans une crise sanitaire majeure, c'est plus de la politique politicienne. Et puis, il y a vraiment effectivement ce problème de légitimité qui a été soulevé. C'est très juste. Comment Emmanuel Macron peut être crédible alors que son programme était à l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quand il parle de l'utilité des gens, il a été banquier d'affaires. C'est un métier à finalement utilité sociale négative parce que votre boulot, c'est de faire des fusions-acquisitions et de mettre des gens sur le carreau pour tirer un maximum de profit des boîtes. Et là, il est en train de parler de la valeur et de ces valeurs des gens utiles. Tout comme son programme sur les retraites où il était en train de détricoter les solidarités. Et là, on voudrait nous vendre davantage de solidarité. Les ministres en parlent, Bruno Le Maire ce matin encore, etc. La légitimité, elle est clé évidemment et on ne peut pas penser autre chose que c'est du théâtre et on est en train de voir ce numéro de trapèze volant qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2008 pendant la crise financière pour essayer de sauver un système en essayant de prendre les habits des partis plus à gauche, des partis plus humanistes pour faire passer la pilule en disant on a compris cette fois-ci on ne fera pas les mêmes erreurs. C'est du théâtre effectivement et je crois qu'on ne peut pas faire confiance à Emmanuel Macron dans la gestion de cette crise. Il a prouvé par les mensonges répétés depuis le mois de janvier que c'était inacceptable et qu'il y avait une bande d'incapables en fait au sommet de l'État, c'est tout.
Non, mais à sa décharge, c'est quand même une crise pareille, une pandémie pareille, personne ne peut trouver les bonnes recettes tout de suite en termes de communication, c'est quand même horriblement difficile à gérer. Je suis d'accord avec vous, hein, je l'ai dit moi-même, sur la légitimité à incarner après une politique différente, ça va être très 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 compliqué pour lui. Mais enfin, reconnaissez quand même l'ampleur de ce qui lui tombe dessus et la difficulté humaine, un peu d'empathie aussi de notre part envers lui, devant cette crise phénoménale qui lui tombe dessus à un moment donné.
Elle nous tombe dessus, lui est de responsabilité.
Le discours d'Alexis est un discours d'opposant extrêmement dur et il est tout à fait recevable et on le retrouve dans de très nombreuses enquêtes d'opinion, mais il faut voir aussi qu'il y a un phénomène en ce moment qui est sans doute peu durable, qui est un phénomène de remontée assez forte de la cote de popularité du couple exécutif. Alors ça peut être vu comme une remontée mécanique dans un contexte où les Français font bloc autour de la figure nationale. Il y a quand même également dans nos enquêtes, notamment qualitatives, un discours d'exonération sur cette crise inouïe, inédite, hors norme. Ce qui n'empêche pas, en même temps si je puis dire, une vraie focalisation sur l'impréparation et notamment sur cette question des masques. Le président a parlé des masques, il a un peu levé l'hypothèque, mais il n'est pas allé jusqu'à parler d'une faute, ce que les Français ressentent de manière extrêmement forte. Donc l'opinion est assez ambivalente sur cette crise. D'un côté, confiance dans le couple exécutif, dans une logique d'union nationale. De l'autre, regard très sévère sur la gestion de la crise au jour le jour. Et absence de visibilité et de crédibilité de la plupart des oppositions.
Un complémentaire. Mais moi, s'il m'est arrivé d'être critique vis-à-vis de la communication parfois trop jupitérienne du président ou de la cacophonie, pour pas dire le bordel de la communication gouvernementale, là, je pense qu'il faut parfois savoir reconnaître qu'il y a du mieux. Là, il y a incontestablement du mieux dans l'empathie, la reconnaissance des failles, la proximité. Après, comme ça a été dit tout à l'heure par notre auditeur, on jugera sur les actes, hein, et sur notamment l'aspect logistique. Le défi de la lutte contre cette épidémie, il est quand même d'abord logistique. Est-ce qu'on est capable de produire ou d'acheminer des masques, ouais, de faire des tests? Et malheureusement, là, le réel va être extrêmement concret. Hein. On va être confronté à des choses qui peuvent être d'une étonnante simplicité ou banalité. Notre capacité à répondre de façon organisée à partir du 11 mai. Je pense que le rôle du politique, et c'est ce qu'a fait le président de la République, c'est de fixer des objectifs qui peuvent sembler ambitieux. Et puis après, l'administration, les entreprises doivent se mettre à la hauteur. Vous savez, j'ai vécu les attentats de novembre et de janvier 2015 et de juillet 2016. À chaque fois, le rôle du président de la République, Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, ça n'a pas été d'arrêter les terroristes eux-mêmes ou d'aller les chercher chez eux ou de confiner d'arrêter des fichiers S. Ça a été de fixer des objectifs très ambitieux, parfois plus ambitieux que ce que l'administration, les policiers, les gendarmes, les services secrets pouvaient nous dire, et après de les forcer à se mettre au diapason. Et ben ça, c'est le rôle d'un chef de l'État.
Oui, mais est-ce que ça peut aussi, c'est assez risqué, ça peut revenir comme un boomerang, c'est-à-dire que va-t-il se passer le 11 mai si on ne peut pas déconfiner comme ça a été annoncé?
Valérie, je suis d'accord avec vous, c'est risqué, mais le rôle d'un politique, c'est pas d'être un gestionnaire, c'est d'avoir de l'ambition et surtout du courage. Incontestablement, Emmanuel Macron, il a fait preuve de courage. Vous savez, une anecdote personnelle. En novembre 2015, quand il y a eu les attentats terribles que vous connaissez, la totalité de l'opposition nous a demandé, petit 1, d'interdire, de fermer tous les cafés, petit 2, d'annuler la COP21, la conférence de Paris sur le climat, petit 3, d'annuler les élections régionales qui avaient lieu 3 semaines après. En janvier 2015, nous n'aurions pas organisé, et nous l'avons pas fait, nous n'avons pas écouté ce qu'a dit l'opposition parce qu'on pensait que la vie devait reprendre ses droits. Et au mois de janvier, si on avait demandé l'autorisation à l'opposition pour organiser la grande marche du 11 janvier qui a réuni 4 millions de personnes et une centaine de chefs d'État et de gouvernement, eh bien personne évidemment ne l'aurait fait. Parfois, il faut avoir de l'audace et du courage. C'est ça le rôle d'un chef de l'État. Et après, l'histoire le jugera, mais il a eu du courage.
Enfin, il y a du courage, mais il y a aussi une crise qui révèle des faiblesses profondes de notre système quand même. On est donc pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation économique plus fragile que l'Allemagne notamment? Parce que Emmanuel Macron, son gouvernement n'ont pas su profiter de la croissance pour dégager des marges aussi. Pourquoi est-ce qu'on a le plus fort taux de prélèvement obligatoire, un déficit budgétaire extrêmement fort, une dette publique colossale, et que en même temps on a un système de santé qui se révèle plus déficient que celui des Allemands? Pourquoi est-ce qu'avec des dépenses de santé équivalentes, on s'organise moins bien que nos voisins allemands? Enfin, il y a quand même des questions qui sont des questions politiques, qui sont des questions techniques et qui vont être posées. Pourquoi est-ce qu'on a perdu notre souveraineté sur des matériels, sur des matériels essentiels qui touchent à notre sécurité sanitaire? Bon, voilà. Alors, l'impréparation, elle n'est pas que d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi, Gaspard, mais la destruction des stocks de masques, la non-reconstitution des stocks de masques, c'est malheureusement le quinquennat précédent. Donc ça aussi, les questions vont se poser à tout le monde.
Bien sûr, elle est collective et ancienne. Chacun devra balayer devant sa porte et le temps des comptes viendra. Mais moi, je n'ai jamais dit que tout ce que nous avions fait était parfait, bien au contraire.
Et il y aura effectivement des choses sur lesquelles il faudra essayer de comprendre ce qui a pu se passer et effectivement, est-ce que les masques, on les aura? Quand est-ce qu'ils vont arriver? On demande aux Français de fabriquer des masques eux-mêmes. C'est là aussi, on a un petit peu de mal à comprendre comment on en est arrivé là.
Et puis on remet pas en cause certains tropismes comme cette espèce d'hypercentralisation de l'État, par exemple. Comment est-ce qu'on peut imaginer que des masques étaient interceptés à un moment, des masques commandés par certaines collectivités locales ou certaines régions?
Enfin, au-delà de ça, j'ai autour de moi, et je l'ai dit hier et je le redis, plusieurs chefs d'entreprise qui ont proposé des masques, qui ont envoyé des mails à Jérôme Salomon en lui disant, l'un d'entre eux m'a dit lui avoir le mail, donc je le dis, avoir proposé 30 millions de masques vers le 10 mars, il n'a reçu aucune réponse. C'est quand même, là aussi, il y a eu des dysfonctionnements dans les ARS, etc., etc.
Eh oui, c'est toute cette chaîne de dysfonctionnement. Mais Emmanuel Macron en a parlé pour le coup, hein, en disant j'ai été témoin de ces dysfonctionnements, qui est bien sûr responsable. Et toutes ces années, effectivement, de gestion en pensant que la tragédie ne viendrait pas, alors que cette pandémie, elle est dans les papiers, dans les prédictions depuis 2005, depuis H1N1.
Oui,
mais comme c'est pas nous, on attend.
C'était difficile.
Voilà. Oui, non, mais Je veux dire, il y avait
c'est
des plans.
Difficile de prévoir que ça allait arriver comme ça aussi.
Enfin, il y a eu le rapport de Michel Barnier, mais quand même, personne ne l'a lu, on l'a jeté à la poubelle, le rapport
mais
de
tous les rapports ont été jetés à la poubelle, rapport de l'INSERM, de l'ESIEP. Vous aviez un rapport de pandémie grippale excellent, où le masque était central dans la stratégie. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand arrive le Covid-19? Vous avez un rapport Covid-19, écrit en janvier, dans la précipitation, où on gomme toutes les références au masque, notamment dans les métiers de contact, tout simplement parce qu'on n'en a pas. Bah, ça, par exemple, c'est criminel. Voilà. C'est simplement dire, on va mentir, on va enlever les masques en disant que c'est pas si important que ça dans une gestion de pandémie, c'est faux. Et ça, je pense qu'il va falloir effectivement se pencher sur les responsabilités, et celles-là sont aujourd'hui et maintenant, au-delà de ce qu'a été de la destruction des stocks, etc. Donc le côté on n'était pas préparé, ça c'est un fait. Le côté on n'a pas répondu comme il fallait, bah ça c'est évident, on paye nos 2 mois de retard.
C'est clair.
Allez, je voudrais qu'on parle des écoles. On a un auditeur en ligne avec nous. Bonjour, c'est Gilles qui nous appelle de Volvic. Bonjour.
Bonjour, merci de prendre mon appel. Je vous appelle au sujet de la réouverture des écoles, que je trouve complètement incohérente par rapport à ce qui va se passer. On ferme par exemple les restaurants, on continue à fermer les bars, etc. Dans un restaurant, dans un bar, on y reste quoi? 2 heures? Et là, on va laisser les enfants rester ensemble pendant 8 heures de temps? Je vois pas vraiment où est la cohérence. Ça me paraît invraisemblable. En plus, bon, c'est du point de vue pratique extrêmement compliqué à mettre en place parce que ben les plus petits, c'est difficile de leur faire comprendre, et puis les plus grands, ben il y en aura toujours qui feront de la provoque. Et donc les gestes barrières, pendant des semaines et des semaines, on nous a rabâché les gestes barrières, etc. Comment voulez-vous les mettre en place dans des classes où on est à 35? Ensuite, pendant ce temps, on a travaillé beaucoup sur l'écrit, c'est sûr, pendant l'école à distance. Donc maintenant, tout l'intérêt de revenir en cours, c'est de faire de l'oral. Allez faire de l'oral avec un masque sur la bouche et vos 35 élèves, tous un masque sur la bouche. Je vois pas trop comment on va faire. Et puis enfin, le dernier point, c'est la sécurité. Comment on va faire pour être en sécurité par rapport à ce virus? On nous explique qu'on n'aura pas de tests et de matériel suffisant d'ici juin. Bah, tout simplement, faut laisser les écoles fermées tant qu'on n'est pas protégé. Enfin, moi, ça me semble invraisemblable qu'on recommence.
Vous avez des enfants?
Ben, écoutez, moi, oui, je me pose la question. Et puis, moi, je travaille aussi dans ce milieu-là. Donc, je me dis, mais comment on va faire pour respecter tout ça? Comment on va faire pour être en sécurité pendant toute cette période? C'est pas parce qu'on a été fermés les premiers qu'il faut qu'on rouvre les premiers. Hein. Ça me paraît invraisemblable.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui s'interrogent et beaucoup de commentaires, je vois sur Internet, qui disent, c'est pour que les gens puissent retourner travailler, en gros. Et pourquoi, la question qui revient, c'est pourquoi laisser les bars, restaurants, hôtels, salles de concert et cinéma fermés et rouvrir les écoles?
Parce qu'on y reste bien plus longtemps.
Non mais Gaspard Gondin, peut-être. Oui, je vais pas prétendre à l'objectivité parce que j'ai moi-même 4 enfants.
Vous avez des enfants, oui, c'est ça.
Oui, j'en ai 4. Entre 5 et 10 ans, avec lesquels je suis confiné avec ma femme à Paris depuis 5 semaines, je les adore, je les aime, je leur fais des devoirs tous les matins. J'ai un respect éternel pour les enseignants qui continuent de nous envoyer des devoirs à faire de façon extrêmement efficace. On peut toujours s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on ouvre les écoles et pas l'enseignement supérieur, pas les bars, etc. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut que la vie puisse reprendre ses droits. Alors évidemment, ça va être un défi sécuritaire, logistique, considérable. Et je peux vous dire que, pas tellement pour moi, je suis très heureux comme ça, mais pour mes amis autour de moi et les gens que j'entends, je peux dire que pour beaucoup de parents, ça va être aussi un soulagement de pouvoir reprendre une activité professionnelle, de pouvoir recréer de la valeur. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes artisan, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes à votre compte, quelle que soit la profession que vous faites, vous ne pouvez pas travailler, c'est faux, avec 1, 2, 3, 4 enfants à domicile. Et vous n'êtes pas professeur. Votre métier n'est pas d'être enseignant. Enseignant, c'est un métier. Et c'est bien que les instituteurs, les professeurs des écoles, les professeurs du secondaire puissent reprendre le relais à un moment donné parce que, évidemment, ce sont les enfants qui ont le moins de bagages culturels, socio-économiques, sans faire du mauvais Pierre Bourdieu, qui souffrent le plus des inégalités à l'heure actuelle.
Oui, qui veut répondre à ça?
100% d'accord, 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les parents ne peuvent pas se substituer sur le moyen terme aux enseignants dans l'éducation des enfants, en tout cas pour ce qui concerne l'éducation scolaire, bien sûr. C'est là, comme l'a dit le président de la République de manière très juste hier, que les différences sociales et l'impact des différences sociales sont les plus fortes. Et puis oui, c'est pas un gros mot de dire qu'il faut se remettre à travailler. Pardon, on a déjà perdu 8
points de PIB, pourquoi maintenant, c'est la question qui revient, c'est-à-dire pourquoi maintenant, il y a beaucoup de médecins qui disent attention, il va y avoir un rebond, il va y avoir une deuxième vague, donc il y a un moment où on a respecté ce confinement qui a porté ses fruits, on va relâcher un petit peu la pression et il y aura vraisemblablement une deuxième vague. Donc on a décidé au bout d'un moment de privilégier l'économie à la santé.
Mais l'économie, on ne privilégie pas l'économie à la santé. La crise économique, ça peut provoquer des dégâts sanitaires encore plus importants. On peut avoir un effondrement total de l'État, on peut avoir une faillite, on peut avoir des répercussions sur toute une politique sociale et politique de santé. Non.
Frédéric. Frédéric David.
Alors, c'est vraiment en fait intéressant dans le discours spontané des Français sur le Covid-19. Oui. On a eu d'abord une focalisation majeure sur la crise sanitaire, sur l'inquiétude pour soi, l'épidémie. Très peu de choses sur l'inquiétude économique et sociale. Et là, de plus en plus, on a peut-être pas à égalité. Pas comme le fait Trump aux États-Unis où il lit systématiquement inquiétude, crise sanitaire et crise économique, mais comme le disait tout à l'heure Gaspard Ganzer, il a une échéance électorale importante et n'oublions pas que les trois derniers présidents battus à l'issue de leur premier mandat l'ont été sur une crise économique. Là, de plus en plus, les Français redoutent d'inquiétude économique et sociale. Et c'est vrai que le retour à l'école, même si toutes les remarques, je suis pas spécialiste du tout, que j'ai pas d'enfant, mais ce qu'a dit votre auditeur me paraît frappé au coin du bon sens, sur les gestes barrières, sur la question de l'oral, tout ce qui a été dit. Mais il y a aussi, je pense, de manière plus forte, l'idée que la vie doit continuer, la vie doit reprendre. Alors, comme je rebondis aussi sur ce qu'a dit Geneviève, oui, il faut dire qu'il faut revenir au travail. Bien sûr, les Français le veulent, ceux qui le peuvent. Il y a 8 millions de Français, je crois, en chômage partiel. Est-ce qu'ils vont tous revenir au plein emploi? Sans doute pas. Dans ce cadre-là, les conséquences économiques de la crise sur l'emploi n'auront rien à voir avec celles de la crise de 2008-2009, puis celle des crises des dettes souveraines. Donc oui, je pense que cette logique que la vie doit reprendre va être majeure chez les Français, ce qui ne va pas empêcher des inquiétudes très fortes, je pense, chez les parents d'élèves. On le verra dans nos prochaines enquêtes.
Oui. Alexis.
Et puis beaucoup de Français travaillent déjà, Valérie, les plus fragiles, les plus humbles, les moins bien payés en général, ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, ils travaillent déjà cela.
C'est bien ça en fait, on voit l'importance sociale de cette crise où finalement dans son discours aussi hier soir c'était un merci à tous ceux qui sont en deuxième ligne au-delà des soignants qu'on ne voit pas habituellement, les éboueurs, les caissières, les caissiers, les caristes, les transporteurs, etc. Et il y a bien un problème, parce que oui, demander aux gens de retourner au travail, il faut garder les enfants, mais il faut pour ça assurer la sécurité de tous. Or, on a l'impression que ça se fait un peu en disant, bon, on verra où on en sera. Alors, le 11 mai, maintenant, on sait très bien que c'est une cible, c'est pas une date dans le marbre, et puis on va voir quels sont les effets de la stratégie de confinement, mais on est coincé simplement parce qu'on n'a pas préparé cette crise sanitaire au moment où on aurait pu. C'est-à-dire les commandes de masques, on pouvait les avoir. On pouvait les avoir en février, en mars, si on avait agi, appuyé sur les bons boutons à ce moment-là. Les tests, c'est une autre affaire, mais pour les masques, c'est clair qu'on a énormément de retard pour organiser un déconfinement dans de bonnes conditions. Donc on est coincé parce qu'on attend des commandes qui n'ont pas été passées à temps.
Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
De retour sur Sud Radio avec vous, avec Geneviève Götzinger, Alexis Poulain, Frédéric Dabi et Gaspard Ganzer. On a en ligne avec nous une auditrice qui voulait réagir. Elle est avec nous, je n'ai pas son nom. Bonjour, Barbara.
C'est Barbara.
Bonjour Barbara. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
Bonjour à tous. Alors, j'ai été très attentive à tout ce qu'a pu dire Emmanuel Macron. Et malheureusement, bien que j'ai essayé de n'avoir aucun préjugé, d'être très neutre, J'ai un ras-le-bol de la communication. On ne veut plus de communication, on veut de la gouvernance. Avec de la gouvernance, on aurait des tests, on aurait des masques, on aurait des respirateurs. On aurait certainement le personnel médical qui ne serait pas en train de s'épuiser. Et Macron, finalement, se sert de mots et de postures simplement pour noyer les faits. Alors moi, par exemple, quand je l'entends dire qu'il faudrait qu'on annule la dette de l'Afrique, ça, ce sont des grands mots. Ce sont des grands mots pour impressionner les gens, peut-être même pour se préparer un électorat. Après tout, les élections présidentielles ne sont pas dans 10 ans. Et si vous voulez, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on veut annuler la dette de l'Afrique. C'est très bien. Je vous dis, c'est grand, c'est beau. Mais qui va annuler la dette de la France ? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part. Et là, qui est-ce qui va payer ? Ce sont les Français. On est déjà surtaxé. On a déjà tout le secteur du tourisme, tout le secteur, disons, de la petite industrie, mais qui va s'en prendre plein la figure. Et qu'est-ce que va faire M. Macron ? Quelle taxe va-t-il encore inventer ? Quelles restrictions à nos libertés ? Là, je crois qu'il joue avec le feu. Il ne se rend pas compte qu'il faut peut-être moins être dans la posture et un peu plus dans la gouvernance. Alors, l'autre jour, j'écoutais, je pense que c'est chez vous, M. Guérini, qui parlait d'humilité. Dans son intervention, il a dit au moins 10 fois le mot humilité. Là encore, ce n'est qu'un mot. Moi, je crois que cette humilité, il faut la traduire dans des actes. Et il faudrait que l'argent de la France, le peu qui nous reste, servent déjà maintenant, surtout pour tout ce qui est le secteur médical, pour éviter que la crise sanitaire prenne encore une ampleur supplémentaire, parce que c'est ce qui nous pend au nez, notamment avec le retour à l'école le 11 mai. Parce que j'ai trouvé cette mesure dépourvue de sens, et vraiment, à tous les niveaux, j'ai vu encore et toujours cette attitude théâtrale de M. Macron, qui refuse d'admettre peut-être, c'est triste pour lui, je le déplore pour lui, mais qu'il n'est pas un grand homme. Il a voulu être président, mais il n'a pas la carrure d'un président.
Bon, bah écoutez, c'est très très précis, très carré, en tout cas dans votre intervention, et ça reflète beaucoup de commentaires qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron hier a dit nous devons nous réinventer, moi le premier. Alors peut-être une réaction à ce que vient de dire notre auditrice Barbara.
Oui, sur peut-être. La statue. Oui. Ouais, bon, allez-y.
Alexis, c'est Alexis, je ne sais pas.
Non, Gaspard,
J'y vais. Non, mais oui. ce que dit votre auditrice est sincère et en plus argumentée. Je pense que ça reflète ce que pensent beaucoup de Français, pour lesquels finalement, peu importe ce que peut dire le président de la République, ils ont fait une croix dessus. Hein, c'est terrible. Hein. Il est arrivé la même chose à Nicolas Sarkozy à un moment donné, à François Hollande à un autre moment. Finalement, Macron peut se débattre. Il y a une partie de la population qui est en défiance de façon durable. Il faut admettre que quand on décide de devenir président de la République, on le fait pas pour être aimé et être accepté de tous. En fait, on a un job à faire. Et là, le job du président de la République, c'est de produire des masques, des tests et des mesures de confinement efficaces. Finalement, peu importe la communication. La seule chose qui va compter, c'est sa capacité à nous sortir de cette crise avec d'autres, hein, au niveau international, et surtout à agir d'un point de vue économique. Et d'ailleurs, j'ajoute un très bref mot là-dessus. Moi, je n'accepte pas qu'on distingue d'un côté la santé, de l'autre côté l'économie. Je pense que c'est un mauvais raisonnement. Évidemment, l'économie, si le chômage est à 25% en France et que les plus pauvres n'ont plus de quoi manger, eh bien, évidemment, les conséquences sanitaires seront considérables. Et elles sont déjà, d'ailleurs, considérables. Donc, ne disons pas que si on veut rouvrir les écoles, c'est pour favoriser les patrons. Non, c'est pour favoriser l'ensemble des Français, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont des entreprises et ceux qui sont salariés.
Oui. Alexis Poulain ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut déconfiner, mais dans de bonnes conditions. Or, aujourd'hui, le 11 mai, c'est ce qu'on pourrait faire de mieux compte tenu de ce qu'on a. Et on en est loin encore, malheureusement. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre, comment on en est arrivé là à mettre à l'arrêt une des top 10 économies mondiales à cause de ce virus. Et pour nous, ça va coûter extrêmement cher. On n'a pas les moyens aujourd'hui. Il y avait un grand
grand absent hier du discours d'Emmanuel Macron, c'était l'Europe. C'était extrêmement préoccupant parce que oui, il a parlé de l'Afrique, mais il n'a certainement pas parlé de la réponse européenne. Il a salué les voisins autrichiens et allemands qui nous aidaient à prendre des malades, mais sur la réponse européenne, lui qui est d'habitude quand même un champion de l'Europe, il a été totalement silencieux. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer au niveau continental avec cette fracture entre les pays créditeurs et les pays débiteurs qui va ne faire que s'accélérer et qui peut être là un danger réel pour la suite.
Frédéric Dabi, sur effectivement cette absence d'Europe.
Oui, alors c'est vrai qu'il n'a pas parlé d'Europe, il n'a pas cité son premier ministre, il n'a pas parlé du second tour, voire de l'annulation des élections municipales. On ne peut pas lui demander d'aborder tous les termes. C'est vrai que quand même l'absence de la question européenne est particulièrement marquante, d'autant plus que sur la question des dettes, le gouvernement essaye de mutualiser, de faire en sorte, des négociations avec Bruno Le Maire, des dettes relativement communes. Je veux revenir aussi sur ce qu'a dit cette auditrice. C'est vrai, ce qu'elle dit, il y a une partie des Français relativement importante, on est sur 25-30%, qui sont sur un rejet catégorique d'Emmanuel Macron. Hein. C'est l'item dans nos baromètres de très mécontent ou n'approuve pas du tout. Ceux-là sont perdus même pendant des crises. François Hollande était monté à presque 50% de n'approuve pas du tout. Il avait réussi à en faire revenir au moment des drames de janvier et novembre 2015. On voit que c'est chez Emmanuel Macron, il est revenu à un niveau de popularité hanté crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire au printemps-été 2018, mais il n'a pas réussi à dégeler cette part de l'opinion publique qui ne compte plus du tout sur lui et qui est dans une posture de défiance absolue, malgré ce caractère de crise hors norme que l'on connaît.
Un dernier mot pour répondre à cette auditrice. La communication, c'est pas juste une posture. Je pense que la communication, c'est important pour entraîner l'adhésion, pour essayer d'avoir l'adhésion maximale, parce que l'adhésion, c'est la condition aussi de l'acceptabilité des mesures qui sont prises, sur une certaine durée. Est-ce que nos anciens, alors il a pas répondu à tout, c'est vrai, mais c'est important, parce que s'il n'y a pas d'acceptabilité, eh ben, on va pas tous ensemble dans la même direction. On n'accepte pas ces décisions. Et c'est vrai qu'on se rend compte que là, la défiance est très, très lourde, parce que là, la communication, dans un premier temps, a été ambiguë, elle n'a pas été très véridique. Mais hier, en étant dans une forme de véracité et de pédagogie de l'action, il a, à mon avis, renoué avec une forme de communication qui n'est pas que de la posture, mais qui est aussi à nouveau la volonté d'arriver à entraîner et de restaurer une forme de confiance d'une majorité de Français. En tout cas, sur les décisions, je veux dire à court terme, sur la gestion de la pandémie elle-même et sur les décisions qui vont être prises.
Oui. Frédéric Dabi, quelle question est-ce que vous allez poser dans votre prochain sondage par rapport à cette intervention ?
Sans doute. Alors, on n'a pas fait de sondage à chaud suite à cette intervention. Je suis pas trop fan des sondages à chaud qui sont trop éruptifs. Ouais. On va plutôt poser nos grands indicateurs de niveau d'inquiétude, de confiance dans les pouvoirs publics pour faire face à cette crise. On a vu cette dégradation assez stupéfiante. Et puis, peut-être des questions plus sur la question de l'école. Hein. On sent que le retour au 11 mai des élèves constitue un sujet central. Et puis, peut-être des projections sur l'après 11 mai.
Très bien. Merci à tous les quatre. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio, d'avoir été avec nous. Et puis,
merci
vous retrouverez
beaucoup.
André Berkoff tout de suite, qui est toujours dans tous ses états, confiné, mais toujours en pleine forme. À tout de suite avec André Berkoff. Et nous, on se retrouve demain à 10h pour d'autres débats. À tout de suite.